Autre radio, autre culture. Ce soir, nous recevons Philippe Amir, ingénieur du son. Cette émission sera retransmise sur Audio People. Nous avons donc la chance de recevoir Philippe Amir. Tu es ingénieur du son à Marseille.
Oui.
Et plus particulièrement du groupe...
IAM.
Voilà. Mais avant d'en parler, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta route, de ton chemin que tu as suivi pour en arriver là. Mmh. Alors j'ai fait quelques recherches évidemment, et j'ai su que tu avais fait l'école SAE. Alors non seulement tu as fait l'école, mais en plus on te cite comme exemple des grands ingénieurs du son de l'école SAE.
Ah bon, je ne savais pas.
Ouais, alors qu'est-ce qui t'a amené là ?
À la SAE ?
Oui.
Je n'ai pas été directement à la SAE. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme je savais que pour faire ce métier-là, il fallait que j'aie quand même des bases techniques, il a fallu que j'aille jusqu'à un bac scientifique, qui m'a amené après à un BTS audiovisuel option son, que j'ai travaillé dans une école dans le sud de la France. Et à la sortie de ça, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à trouver de stage, quoi. En gros, j'avais un copain de promo qui avait réussi à mettre le pied dans un studio, et c'était le seul qui avait réussi à avoir ce contact-là. Donc je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse une autre école qui me permette d'avoir cet accès-là. En gros, quand je me suis retrouvé à la SAE, moi j'avais déjà ma formation. J'avais eu la chance de rencontrer un prof de son qui était génial et qui m'a tout appris, parce que théoriquement, j'ai rien appris après, quoi. C'est un mec qui avait fait l'INA, qui bossait à Radio France dans le sud, et en gros c'est à lui que je dois tout, quoi. C'est un peu lui qui m'a appris techniquement ce que je sais, et surtout l'attitude que je dois avoir face au son, quoi. Ce qui m'a appris, c'est d'être toujours à la recherche du meilleur son possible, quelque chose de musical, de beau, voilà. Et en gros, donc je me suis retrouvé à la SAE où j'ai appris d'autres choses. C'est ce que j'ai appris, c'est plus le métier dans le son plutôt que le son, quoi. C'est les rapports que je dois avoir avec les autres ingénieurs. Et puis surtout, la chance qu'on avait dans cette école-là, c'était de se retrouver derrière une NIV et d'apprendre des grosses consoles, quoi. Du coup, à la sortie de cette école-là, on pouvait se retrouver dans des gros studios et être opérationnel tout de suite. Donc ça, c'était bien, parce que c'est vrai que quand on sort d'une école qui ne nous permet pas d'avoir un matériel énorme, comme on peut le trouver dans des très gros studios, et c'est dans des studios comme ça que je voulais bosser à la base, quand on n'a pas cette chance-là de se retrouver dans des conditions pareilles, du coup, on ne sait pas, quand on s'y retrouve, si on est capable de le faire. Rapidement, j'avais compris que un jour, j'aurais la chance de me retrouver dans les situations d'ingénieur et qu'il faudrait que je sois opérationnel dans la seconde. Donc la SAE, elle m'a permis ça, d'un coup de me rendre opérationnel tout de suite dans n'importe quel studio. Alors qu'à la base, j'avais un peu des complexes, quoi.
Est-ce que la SAE donne une signature commune à tous les étudiants dans son école ?
Ça, je pense pas, non.
Elle ne formate pas, c'est ce que je veux dire.
Non, elle formate pas. C'est vraiment, et là, moi, j'ai pas rencontré quelqu'un qui était formaté de n'importe quelle école, quoi. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu la chance de donner des cours à la FEMIS, et même là, on s'apercevait que la personnalité des étudiants faisait la différence, quoi. C'est-à-dire qu'un étudiant dans une classe, je sais pas, à la SAE, on était peut-être 50 dans la classe, je sais même pas, une cinquantaine, on s'aperçoit très vite que y a peut-être 10 personnes qui sortent du lot, et que dans les 10 personnes, il y en a peut-être 3 qui vont réussir, quoi, sur 50.
Alors en fait, l'argent n'est pas un critère pour que les 50 puissent avancer d'un seul mouvement, et parce que c'est ce qu'on critique au niveau des universités, parce que comme c'est pratiquement gratuit, les étudiants ont tendance à se laisser aller, etc., etc. En fait, on s'aperçoit que même dans des écoles qui sont relativement onéreuses, on a exactement le même problème.
Exactement. De toute façon, on ne change pas la personnalité des gens. Il y a des gens qui ont envie de réussir, d'autres qui n'en ont pas envie. Il y a des gens qui ont du mal à avoir cet argent-là pour accéder à des écoles comme ça, d'autres qui l'ont facilement aussi, quoi. Et face à ça, on n'est pas tous égaux. En revanche, on est tous égaux face au travail, à la passion, et donc on l'a ou on l'a pas, ou on se permet de l'avoir, on se permet pas de l'avoir. L'argent ou la formation change rien. Il y a un moment donné où, moi je me rappelle quand j'étais à la SAE, d'ailleurs il y avait des surveillants qui rigolaient quand ils me voyaient. Moi je dormais dans le canapé à l'entrée de l'école, quoi. Et j'attendais, je passais la nuit là-bas pour attendre que des élèves qui avaient réservé le studio ne viennent pas, parce que ça arrivait tout le temps. Et je prenais les heures de studio et je restais toute la nuit tout seul dans le studio, ou des week-ends complets où j'étais seul dans l'école, quoi.
Alors c'est amusant parce que ça c'est un exemple que j'ai trouvé de quelqu'un qui était à l'école SAE et qui est professeur et il y a eu une interview de lui et il donne cet exemple-là d'étudiants qui dorment justement en attente de ces fameux studios finalement
Bah ouais, c'est ça. Ouais.
qui étaient ils attendaient qu'ils se libèrent finalement.
Exactement. Ouais, non mais quoi, moi je l'ai fait. Hein. Et justement, c'était marrant parce que à l'époque, je me disais bon, là, je me donne du mal, je mets un gros coup de pouce pour apprendre le métier. Donc, je dormais quasiment pas. Je me faisais mal, quoi. Fallait y aller. Donc, j'avais envie vraiment d'y aller. Je me disais bon, de toute façon, après, dans le métier, ce serait plus facile. Et au final, je me suis aperçu que j'avais pris le rythme et que dans le métier, c'était comme ça que ça se passait, quoi. On dort pas, quoi. On dort pas. Quand on est en période de production, on dort plus, c'est fini. Mais bon, après, le métier a changé, je pense aussi. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui sont plus capables de faire ces efforts-là, quoi. Et puis les studios forment plus les ingénieurs comme ils les formaient il y a longtemps. Et on perd l'apprentissage des plus anciens, quoi. Comme ça, dans les studios, on le perd un peu, c'est dommage, quoi. Mais bon, après, ça fait partie de l'évolution, il ne faut pas le regretter. Moi, j'ai eu la chance de le vivre encore, de me retrouver en studio, pas dormir et travailler avec des gens qui avaient fait des dizaines d'albums et qui m'apprenaient des choses et qui me les apprenaient parce que ça faisait 15 heures que j'étais dans le studio. Au bout de 15 heures, ils me donnaient une astuce, quoi. Et du coup, ben, j'avais pas perdu mes 15 heures, quoi.
Ouais, en fait, c'est ce qu'était l'apprentissage. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de la SAE qui sont, moi je dirais pas imbus d'eux-mêmes, mais sont tellement fiers d'être à la SAE qu'ils sont toujours très surpris lorsqu'ils font leur stage dans des studios référents, des grands studios, d'être pris comme le porteur de gobelets. Et ils le vivent très 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 mal.
Ça, c'est des problèmes d'ego, c'est personnel, quoi. Il y a un moment donné, il ne faut pas se prendre au sérieux, quoi. Puis quand on débarque dans un studio, ça veut dire qu'on y est depuis 5 minutes et qu'il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Et que c'est peut-être ces gens-là qui vont nous apprendre des choses et pas nous qui sortons d'une école, qui n'auront rien fait. L'ego, ça, c'est. On le rencontre, quoi. Et en même temps, bon, la SAU, c'est une école qui se dit prestigieuse. Bon, après, il faut se calmer. C'est le prestige de l'argent aussi. On en parlait tout à l'heure. C'est le prestige aussi parce qu'on a mis, je sais pas combien ça a coûté maintenant, presque 10 000 euros dans une formation, ou 5 000, ou je sais pas. Mais bon, c'est ce prestige-là, on l'oublie vite quand on regarde une console et qui coûte 150 000 euros, quoi.
Alors, quelles sont les ouvertures que l'on a quand on sort de la SAE? Est-ce qu'on a des désillusions? Est-ce que il est dur de trouver du travail? Et comment ça s'est passé pour toi?
Alors voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le facteur chance, quoi. Là, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui vont avoir la chance et d'autres qui ne l'auront pas tout de suite ou qui l'auront plus tard. En gros, moi, je me suis aperçu, quand j'étais en formation, moi, j'ai fait une formation de 9 mois. Donc, c'est une formation très rapide. Et je me suis aperçu que, bah, déjà, moi, je me donnais du mal pour travailler les cours, entre guillemets. Et il y avait un copain de promo qui s'est retrouvé à proposer ses services comme stagiaire dans des studios. Et à l'époque, le plus gros studio de France, et peut-être encore maintenant, c'était Guillaume Tell. Et il a eu une proposition de stage à Guillaume Tell et même le prendre tout de suite comme assistant, quoi. Alors, une chance comme ça, c'était énorme. Guillaume Tell, c'est fantastique de rentrer là-bas. Et il a refusé. Alors là, c'est marrant parce que bon, c'est un mec qui a eu la chance de pouvoir y rentrer, il l'a refusé. Et au final, personne de la promo a pu y rentrer, quoi. C'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. Ça se fait très vite, en plus, une place à Guillaume Tell. Bon, elle est libre 3 heures, quoi. En gros, il fallait qu'il dise oui tout de suite au téléphone, il l'a pas prise. Bon, lui, il a eu la chance tout de suite. Moi, bon, j'ai d'autres copains qui ont ramé, qui n'ont jamais rien trouvé. Moi, j'ai laissé quelques CV dans des studios à Paris. Et puis, c'est avéré que finalement, le fait d'avoir fait la SAE, ça m'aidait pas plus. Et je suis rentré dans un studio dans le sud de la France, Studio Polygone, comme stagiaire. Je leur ai proposé de faire un stage je me rappelle plus, c'était 2 mois, je crois, deux ou trois mois, où j'ai fait 2 mois plus 1 mois non rémunéré. Donc c'était l'effort que je faisais moi, avec le peu d'économie qui me restait après la SAE. Et donc à la sortie de ça, j'ai fait en sorte de me rendre indispensable. Et pour se rendre indispensable, justement, il faut ranger son ego, et puis parfois il faut aller chercher le café. Et puis et si on le fait bien, on est indispensable après quoi. Parce que quand on n'est pas là, il n'y a pas de café quoi. Et les clients nous demandent. Et quand le client demande avoir une équipe dans le studio, le patron du studio, il est obligé de satisfaire les demandes du client. Et là, du coup, on fait partie de l'équipe, quoi. Et c'est parti, quoi. Et après le café, après on range le câble, après on range le micro, après on place le micro au moment de la prise de son. Et là, il y a beaucoup d'étudiants qui ont oublié de ce que c'était, quoi. Un micro, ça se place devant une voix, quoi. C'est pas jeté au hasard, quoi. Et puis après, on règle le préampli, on règle le compresseur, et puis ça y est, un jour, l'ingénieur va aux toilettes, et puis on prend sa place et on la quitte plus, quoi. Et voilà. Et c'est comme ça à peu près que ça s'est passé pour moi, quoi. Ça s'est réellement passé comme ça sur certaines sessions, puis pour d'autres, j'ai eu beaucoup plus de chance, quoi. Où je passais ingénieur tout de suite, quoi. De stagiaire, je suis passé ingénieur.
Tu es passé dans combien de studios, à peu près ?
Pas beaucoup, Bon, j'ai dû travailler en 5 studios, quoi. Pas plus, quoi. Mais après, voilà, ça, c'est le facteur chance, quoi. Et avoir la chance de tomber dans des endroits qui sont sympas, quoi. Et puis, quand on tombe dans un endroit qui ne l'est pas, partir très vite, quoi. Arriver à partir. Ça, c'est le plus compliqué, parce que parfois, en plus, à l'époque, il y avait beaucoup de monde qui voulait rentrer dans les studios. Bon, maintenant, ça se fait moins. Mais du coup, il y avait une pression sur le personnel qui était énorme. C'était, si t'es pas content, tu t'en vas et je te remplace tout de suite. Quand on arrive et qu'on n'a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup d'expérience, on se dit que finalement ça va vraiment se passer comme ça jusqu'au jour où on en a un peu assez. On se dit bon, on va partir quand même, et on s'aperçoit que il y a personne pour nous remplacer, quoi. Et là du coup, c'est à ce moment-là où on commence à augmenter les tarifs aussi, quoi. On se dit ça y est, c'est parti, je fais partie du métier, quoi.
Alors à cette époque-là, qu'est-ce qu'on appréciait particulièrement chez toi et dans ton son?
Alors à l'époque, voilà, c'était quoi. Moi, j'ai eu la chance déjà de jouer de la guitare avant de faire du son. Donc j'avais fait de la musique. J'ai jamais été un grand guitariste, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me débrouillais. En tout cas, ça m'a permis de réfléchir. Quand j'ai été étudiant, j'ai fait beaucoup de sessions et je me suis spécialisé. J'ai essayé de me dire, je vais apprendre à faire par exemple la prise de son de guitare parce que c'est ce qui me touchait le plus et en même temps je pouvais jouer. Et à apprendre à placer les micros parce que, en gros, personne m'apprenait à placer les micros, il fallait que je cherche. Donc j'ai trouvé des solutions comme ça. Après, je suis passé à la guitare acoustique, donc j'ai cherché des solutions, des endroits où la guitare résonnait plus que d'autres, les aigus, les graves, tout ça, essayer de trouver des choses comme ça, le piano, la contrebasse. J'ai passé en revue comme ça beaucoup, beaucoup d'instruments. Et ensuite, j'ai fait une formation en prise de son stéréophonique au conservatoire de la Villette, qui a duré 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus. J'ai appris à faire de la prise de son stéréo d'instruments classiques, qui m'a permis après de faire de la prise de son d'orchestre symphonique. Et donc du coup, j'ai travaillé comme ça, plusieurs textures en même temps. C'est-à-dire, en même temps, je faisais du rock'n'roll d'un côté, je faisais de la prise de son de groupe de bossa et de salsa, et en même temps, je faisais aussi des prises de son à l'opéra. Et en gros, je me suis un peu dirigé vraiment vers la prise de son. C'est ce que je préférais, et je me suis dirigé vers ça. Et je me suis aperçu que, en gros, ce qui se passait, c'est que les gens, ils aimaient bien bosser avec moi parce que j'avais plusieurs solutions à un problème. C'est-à-dire que, par exemple, le son de guitare acoustique, il convenait pas. C'est-à-dire, artistiquement, je l'ai dirigé vers une solution ou vers une autre. C'est-à-dire que, dans le son, on oublie parfois que, on fait un enregistrement. C'est vrai, il faut enregistrer l'instrument le mieux possible, le détimbrer le moins possible, essayer de faire les choses, entre guillemets, dans les règles de l'art. Mais il faut pas oublier qu'on fait de la musique. Cet instrument, il rentre dans de la musique et qu'il faut servir ça. Avant de servir la technique, on sert d'abord la musique. Et donc, bah, il faut proposer plusieurs solutions. Alors, une prise de son stéréo, une prise de son mono, déjà, ça, c'est la base, quoi. Arriver à faire d'une source mono quelque chose de stéréo, bah, ça se travaille. Donc voilà, les gens, ils aimaient bien bosser avec moi parce que je proposais des solutions. Et je m'aperçois que même maintenant, ça fonctionne comme ça, quoi. Je propose des solutions, je me donne du mal. C'est même quand j'arrive à quelque chose qui est bien, j'essaie de l'améliorer tout le temps. Sur le placement, la distance avec le filtre anti-pop et le micro. Techniquement, j'essaye toujours d'essayer de trouver quelque chose de mieux possible, quoi. Et ça vient à la base, en gros, des premiers stages que j'ai fait à Radio France. Quand je travaillais à 6h du matin avec que des voix, et je m'apercevais que d'un matin sur l'autre, bah, la voix n'avait pas le même son. Parfois, il fallait égaliser et il n'y avait pas toujours la même recette, quoi. Donc forcément, bah, ça fait travailler l'oreille et puis ça nous dit que tous les jours est un autre jour et qu'on peut apporter quelque chose de différent parce que l'instrument n'est pas le même. La voix ou la guitare, et le taux d'humidité et tout change, tout varie. Donc tous les jours, c'est autre chose, quoi. Donc c'est super, quoi.
C'est magnifique.
Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a fait t'installer à Marseille ?
Bah, je suis originaire de Marseille et puis voilà. Bah, après, c'est voilà, le facteur chance qui a fait que... Quand je suis parti du studio de Toulouse au bout de 2 ans, je suis rentré dans un studio qui se trouvait à Avignon. Et là, j'ai rencontré l'équipe d'IAM, voilà, le groupe Kenaton, tout ça, qui faisait des projets là-bas. Et puis le studio a dû fermer et finalement, Kenaton a racheté le matériel. Et du coup, il m'a invité à venir bosser chez lui, dans son studio perso, avec le matériel que je connaissais par cœur. Et parce qu'on s'entendait super bien et bon, il y avait un ingénieur qui bossait là-bas qui aimait surtout faire des mix. J'aimais surtout faire des prises et donc du coup on était complémentaires et c'était super, quoi. Donc on a bossé comme ça quelques années et puis bon, finalement l'ingénieur qui faisait les mix est parti faire du mastering à Paris et puis finalement je fais les prises et les mix maintenant. Voilà. Mais bon, c'est le hasard des rencontres. Et puis, il y a un moment donné où quand on bosse avec des mecs tous les jours, bah, parfois on devient copains, puis amis, et puis et du coup, on se quitte plus, quoi.
Alors, quelles sont les difficultés de l'enregistrement tel qu'un groupe comme IAM ?
Les difficultés techniques dépendent des prises de son. Voilà. Là, c'est le groupe IAM, c'est un peu particulier parce que déjà, c'est un groupe de rap. Donc, c'est vrai que... au niveau de la prise de son, c'est essentiellement des voix. La voix rappée et la voix chantée, ça se travaille pas de la même manière, donc y a un léger savoir-faire aussi à avoir à ce niveau-là. Après, on fait des prises de son d'instruments. Alors, au niveau de la prod, il y a des prods qui sont complètement électroniques, donc du coup, c'est juste un transfert d'un sampler vers le magnétophone. Donc déjà, il y a le choix des préamplis qu'on va utiliser pour prendre le son de la machine pour l'amener vers une autre machine. Donc ça, c'est un choix complètement artistique parce qu'au niveau du matériel, on a ce qu'il faut. Donc choisir un préampli ou un autre, ça c'est artistique plus que technique. Ensuite, il y a des prods qui sont faites à base de rythmes électroniques ou de rythmes acoustiques qui sont retraités dans un sampler, quoi. Donc il faut déjà enregistrer le son acoustique pour qu'il puisse rentrer dans le sampler, qu'il soit travaillé dans le sampler par le producteur et qu'il nous le repasse après, quoi. Donc il y a tout ça. Et après, il y a des sons qui sont traités directement dans le magnéto et là-dessus, le sampler n'intervient plus. Donc en gros, on se retrouve avec plein de sources sonores qui arrivent de plein d'horizons. On peut avoir des violons qui arrivent de Prague avec... un oud enregistré à Marrakech et finalement des scratchs qui arrivent d'un vinyle qui a été gravé à New York, quoi. Donc du coup on se retrouve avec plein de sources différentes qui sont super intéressantes pour la musique, c'est super bien. Puis surtout le travail, il est basé sur le rythme et du coup le travail que je fais avec eux, c'est plus un travail artistique qu'un travail technique, parce qu'après, au bout d'un moment, bon là, maintenant ça fait plus de 10 ans que je fais des prises de son, techniquement j'arrive à régler un préampli pour qu'il y ait un niveau correct dans un magnéto sans trop de difficultés. Donc du coup, le travail que moi je peux apporter par rapport à un autre ingénieur du son, c'est vraiment de l'artistique, du placement rythmique au niveau des voix. Et le rap, il est basé là-dessus, quoi. Alors justement, travailler avec ces gens-là, c'est ça même c'est ça qui m'a plu, c'est ce qui m'a fait évoluer même dans mon métier. C'est vraiment arriver à faire en sorte que toute la base théorique de musique, de musicien, d'harmonie que j'avais, a été complètement influencée par ce style-là, et notamment ces gens-là qui maîtrisent le rythme comme j'ai jamais vu quelqu'un d'autre le maîtriser. C'est-à-dire qu'à l'oreille, c'est vraiment super fort d'arriver à reconnaître les placements et les vagues rythmiques comme ça, c'est un travail incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à jongler d'un type d'écoute à un autre, c'est super compliqué, quoi. Se dire, en même temps, je fais de la musique, il faut que ce soit harmonique, et donc du coup, je suis sur des bases d'écoute de musique un peu basées sur toute notre histoire musicale qui vient de la musique classique et tout ça. Et cette nouvelle vague qui arrive depuis les années 80 et même fin 70, qui est complètement basée sur le rythme, la voix, en gros, c'est des choses qu'on pouvait comprendre sur des musiques qui sont complètement... percussive, et on retrouve ces choses-là avec des sons modernes, entre guillemets, parce que c'est des sons électroniques, et du coup ça m'a fait évoluer. Donc il a fallu que je garde cette base de mélodie, de musique traditionnelle, entre guillemets, notre culture musicale européenne, quoi, et cette musique qui arrivait comme ça, complètement sur les rythmes, un peu saccadé. Et du coup, cette musique-là, elle ne s'écoute pas comme une autre musique. C'est-à-dire que le rap, quand les gens me disent ouais, « c'est répétitif », ça ne peut pas être répétitif. Ça peut l'être quand c'est de mauvais rappeurs, c'est toujours pareil. Mais ça ne peut pas être répétitif quand on écoute le rythme des mots. Et surtout le placement rythmique. Il y a un moment donné où quand on écoute le rythme des mots, on rentre dans un... Dans une transe, quoi, à l'écoute.
Voilà. Je voulais en revenir là-dessus, parce que je me posais la question, est-ce que lorsqu'on met en avant cette voix, ce rap, c'est comme une espèce de mélopée, très rythmée,
ouais.
Est-ce qu'on met ça plus en avant, comme on fait dans les musiques tribales, où on met cette espèce de voix pour mettre en transe les gens,
c'est ça.
Où on essaye plutôt de faire passer les mots? Qu'est-ce qui est le plus important ?
Ah ben justement, alors là, ça va dépendre de l'artiste. Si l'artiste a quelque chose à dire, on va mettre les deux en avant. C'est-à-dire que le rap, c'est d'abord le flow, c'est-à-dire le rythme. Et en plus, on va rajouter des mots à ces rythmes-là. Ou sinon, on se sera arrêté à faire de la percussion. Là, on a la chance de pouvoir faire des rythmes avec des mots. Donc en plus, on donne un double sens. Le sens du rythme, quelque chose de musical qui nous fait réagir au niveau corporel. Et après, le sens des mots qui nous fait réagir au niveau de l'intellect. Donc le fait qu'il y ait les deux, c'est génial, quoi. Parce que du coup, on se nourrit de plein de choses, quoi. Mais après, bon, s'il y a un rappeur qui n'a pas grand-chose à dire, on va essayer de faire en sorte qu'on entende un peu moins la voix, quoi.
Est-ce qu'on recherche justement cet effet de spatialisation comme on peut retrouver en jazz ou même dans les musiques latino ?
Oui, mais alors pas du tout traité de la même manière. C'est ça qui est super. En gros, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en venant de la musique classique, du jazz, de la bossa, du rock, de tout ça, j'avais appris la spatialisation d'une certaine manière. En travaillant avec ces gens-là, j'ai appris autre chose, quoi. C'est-à-dire que la spatialisation ne se passe plus de la même manière du tout. Il y a un moment donné où... le fait que cette musique vienne de la rue, au niveau même de la réverbération, on ne doit pas avoir les mêmes sons. C'est-à-dire que cette culture-là, on doit la ressentir au moment de faire le son, quoi. Et ça amène un truc, c'est énorme, quoi. D'un coup, quand on arrive à faire, se faire plaisir en faisant, par exemple, je sais pas, si on fait des prises de son de mandol ou de percussions iraniennes pour rentrer dans des titres comme ça, et qu'à côté de ça, on est obligé de faire attention quand même à faire en sorte que ce soit de la musique urbaine et qu'on mette quasiment pas de réverb, si ce n'est aucune réverb sur la voix ou peut-être que du délai, mais du coup, les instruments, ils se traitent pas de la même manière, quoi. Et c'est super riche, quoi. Au niveau de la spatialisation et puis notamment des textures sonores, c'est super riche parce que on se retrouve avec des samples ou des vrais instruments enregistrés avec des sons électroniques et tout. Il y a tout d'un coup, c'est on se met pas de barrière, on va pas se dire ah bah attention culturellement le charlet sur la batterie il est placé à tel endroit, la caisse claire à tel endroit, les overheads c'est comme ça que ça se place parce que l'instrument il est fait comme ça, ou que sur le piano la main gauche c'est le grave, main aiguë c'est l'aigu et l'enregistrement il doit se passer comme ça. Genre là on se pose pas ce problème là, on s'en fout complètement d'ailleurs. Au contraire, mettons tout à l'envers et on écoutera bien ce que ça peut nous procurer, quoi. Et du coup, on expérimente encore des choses. C'est marrant, quoi, parce que bon, en même temps, IAM c'est quand même un groupe connu qui a fait des singles et des albums qui ont bien marché. Et en même temps, on est toujours en train d'expérimenter des choses, d'essayer des choses. Et puis j'ai cette chance-là, ils me font confiance. Et si j'ai envie d'essayer des trucs, ils vont refaire pour moi jusqu'au moment où c'est bon, j'aurai fait le tour et on choisit ensemble quelle prise on va garder en fonction du micro, du préampli. J'ai une liberté avec eux que j'ai pas eu avec d'autres, quoi. Et ça, c'est génial. En tant que technicien, de pouvoir faire des tests de micro, c'est la classe, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que tu as une signature architecturale maintenant ? Est-ce qu'on peut dire en t'écoutant, en écoutant des enregistrements, ça, c'est du Philippe Amir ?
Non, j'ai pas cette prétention-là. Non, je pense pas. Non, justement, et puis en plus, franchement, ça me plairait pas qu'on dise ça. Non, je préfère qu'on se dise rien du tout. Quand c'est bien enregistré, quand c'est bien mixé, on ne doit même pas relever que ça a été bien fait. En gros, c'est quand ça a été mal fait qu'on s'aperçoit que le travail il n'a pas été fait comme on devrait. C'est un peu comme une rage de dents. Tant qu'on n'a pas mal aux dents, on ne sent pas les dents, puis un jour on a mal aux dents et on sent que ça, quoi. Ben là, c'est un peu pareil, quoi. Notre métier, on ne doit pas sentir que le travail il est bien fait parce que justement, ça ne doit pas s'entendre, quoi. C'est bien fait, c'est tout. C'est la musique qui doit vivre. C'est l'artiste qui doit être fort. Techniquement, on ne doit pas l'entendre.
Pourtant, c'est assez amusant parce que ce sont des réflexions totalement inverses de ce que j'ai pu entendre chez certains ingénieurs du son qui se considèrent comme artistes.
Ouais, mais toujours moins que les artistes qui sont à côté de nous, quoi.
Pourtant, il y a quand même une sensibilité d'ingénieur du son.
Ah, mais complètement. Non, mais après, on est unique. Un ingénieur, il ne va pas travailler comme un autre. Après, on est des artisans, d'accord ? Des artistes, c'est une autre histoire, quoi. Parfois, on est obligé d'aller rajouter des textures, de faire des choses et tout, mais parce que, bah, parfois, la musique manque. Il y a un manque. Il faut qu'on rajoute quelque chose. Mais après, il y a un moment donné où moi, je me bats parfois pour enlever les choses, quoi. Parce que je suis entouré de gens qui sont super créatifs et on en met partout, quoi. Et ça rentre pas. Donc, il faut essayer de faire du tri, et finalement, c'est ça qui est génial, quoi. Puis, après, il y a un autre truc aussi, c'est que ça dépend toujours des personnes avec qui on travaille. Moi, parfois, je m'aperçois qu'il y a des mises à plat qui sont faites par les artistes avec qui je travaille, notamment Akhenaton ou Imhotep, quand ils m'amènent des instrus qui sortent de leur studio personnel, qui passent par des consoles minuscules. Quand il y a une dynamique, un son qui est tellement énorme que ça me met même la pression à moi au moment où je mixe, quoi. J'essaie surtout de pas faire en dessous de ça parce que déjà la barre est super haute, quoi. Et du coup eux ils font exprès aussi parce que on essaye de tout se pousser vers l'avant, quoi. Et du coup ils mettent la pression et j'essaye de faire mieux. C'est super compliqué, quoi, parce que ce que j'entends déjà c'est génial, quoi. C'est super compliqué, ça. Alors là, c'est pour ça que j'ai vraiment pas la prétention de me prendre pour un artiste. Hein.
Est-ce que tu es, mis à part IAM, est-ce qu'il y a des artistes qui t'interpellent en ce moment et que tu dirais « Oh, celui-là, j'ai envie de l'avoir ».
Alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé à bosser, à faire des prises de son, je m'étais fait une shortlist des gens avec qui je voulais bosser. Alors bon, alors ça peut paraître prétentieux, hein. Il y avait des noms, des monstres, hein, mais... Ouais, je voulais bosser avec Depeche Mode, avec Madonna, je voulais faire des Stevie Wonder. Et puis il y avait IAM aussi dans le lot. Donc déjà, je suis content, j'en ai fait déjà une partie, quoi. Et j'ai travaillé après avec d'autres artistes que je connaissais pas à l'époque, quoi. Avec qui je me suis régalé. C'était des super bonnes expériences et vraiment, je suis fier d'avoir fait certains albums, notamment avec un artiste qui s'appelle Bernardo Sandoval. C'est vrai que je suis moins dans le j'ai envie de travailler avec quelqu'un parce que parfois j'ai été déçu et puis d'autres fois j'ai été agréablement surpris par des a priori que j'avais quoi. Donc du coup je rencontre les gens et puis je vois si ça m'intéresse ou pas. Et puis bon, des fois on est déçu, on se crée des monstres artistiques alors que parfois c'est pas eux qui bossent, c'est d'autres. On sait pas comment ça se passe les albums quoi. Puis notamment, parfois on regarde les jaquettes, on regarde les noms qui sont inscrits dessus. Puis moi-même je me suis aperçu que dans la réalité c'est pas tout à fait la même chose quoi. Donc du coup. Il y a des artistes que je trouve vraiment intéressants comme PJ Harvey ou Nick Cave. Voilà, ça c'est des artistes avec qui j'aimerais bosser, quoi. Mais je me fais pas d'illusions, quoi. Puis à la limite, si je le fais pas, c'est pas grave, quoi.
On en parle beaucoup, c'est amusant, parce que moi c'est un artiste que j'écoute depuis des années et des années. Ouais. Philippe trouve que ça devient lancinant à la fin, parce que je trouve que ses enregistrements sont toujours excellents.
Ah non, mais là, le dernier album, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre. Le dernier album, au niveau du son, il est bien meilleur que les deux précédents. Le dernier, il est revenu dans quelque chose qu'il faisait il y a 8 ou 10 ans, quoi. Au niveau du son, quoi, déjà. Mm-hmm. C'est super, quoi. Il y a un artiste que je trouve fantastique aussi, Thomas Dibdahl. C'est carrément... J'en ai parlé dans le forum.
Un des nombreux forums sur Internet, sur le son.
Ouais, non, Thomas Dibdahl, voilà, ça c'est super, quoi. Mais bon, après, pareil, j'ai pas envie de bosser avec lui. En plus, lui, il compose, il écrit, il fait les prises, il fait les mix, il fait tout lui tout seul. Et ce que j'entends, c'est tellement génial que j'ai pas envie d'aller mettre mon nez là-dedans. Je préfère qu'il fasse des albums et que je les achète, quoi. C'est bien mieux, quoi. Je me régale.
Quand tu reçois un nouvel artiste qui est intéressé de venir enregistrer avec toi, est-ce que, même s'il n'y a pas le feeling au premier rendez-vous, tu tentes l'expérience?
Je considère qu'on n'est pas toujours bien luné. Donc du coup, parfois ça se passe pas bien, mais ça peut très bien se passer au niveau du boulot, quoi. Mais c'est vrai que au bout d'une semaine, si je le sens pas, j'arrête, quoi. J'ai la chance de me donner cette liberté-là. J'ai pas envie d'aller m'ennuyer dans un studio. J'ai envie de me lever, d'aller faire de la musique parce que ça me plaît. J'ai pas envie que ce soit la corvée, quoi. Parce que c'est ma passion, j'ai pas envie de la gâcher, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des sessions pour lesquelles ça a été plus compliqué et j'ai décidé d'arrêter, quoi. Je l'ai proposé, j'ai dit je peux rien t'apporter, là, je le sens pas, je préfère que tu bosses avec quelqu'un d'autre. Et puis je donnais des noms de copains qui bossent super bien. Hein, ça me pose pas de problème. Hein. Puis bon, après c'est l'inverse, hein, y a des artistes avec qui j'ai envie de bosser et puis bon, ils ont pas besoin de moi aussi. Hein.
Ouais. Et cette carrière de guitariste?
J'ai eu la chance, une des dernières prises de son que j'ai fait, ça a fait un single, donc c'est super, quoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je travaille pas beaucoup l'instrument, quoi. Donc il faut que je m'y remette, là.
Alors, est-ce que c'est bien toi qui as travaillé avec Faf Larage?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Alors, nous avons un des deux guitaristes qui a fait le générique de Prison Break.
Ouais. Ouais. Voilà. Bah là c'est le hasard, mais alors là c'est par exemple, voilà, quand on parle de coup de chance, c'est complètement ça. Faf Larage, c'est le frère d'un des rappeurs d'IAM, et on bosse dans un lieu où il y a plein de petits studios. Alors lui il bosse là parce que chez lui il peut pas travailler, il peut pas faire de bruit, donc Akhenaton lui prête un petit endroit du studio pour faire des petites prods comme ça, et puis on discutait tous les deux de son, on était un peu bon... on n'avait pas trop le moral un jour, il me dit ouais voilà, j'ai présenté un morceau pour une série télé, il n'a pas été pris, moi je le trouvais bien et tout, j'ai dit je sais pas, fais-moi écouter. Donc j'écoute le morceau que je trouvais super, mais les guitares étaient faites au synthé quoi avec un expander quoi. Et bien j'ai dit non, tes guitares c'est pas possible quoi, ça marche pas quoi. Donc j'ai dit si tu veux je te fais des guitares là vite fait, comme ça là dans le studio j'ai ma guitare. On y va, quoi. Puis j'avais que ça à faire. Il me dit, ouais, tiens, pourquoi pas, on essaye. Puis c'était entre midi et deux, donc les guitares, je les ai faites vite fait. J'ai vite fait un petit montage. J'ai dit, ça se met en stéréo, tout ça. Puis il a fallu que je reparte faire mes prises de son. Lui, il est parti avec ces guitares-là. Il les a mis à la place de ses synthés. Et puis finalement, le morceau a été pris. Et puis finalement, ça fait un single, quoi.
Et puis ça a été un très grand succès.
Ouais, ouais. Ouais, c'est des guitares faites un peu n'importe comment, quoi. Mais pareil, j'avais fait une prise de son une fois. C'était n'importe quoi, cette prise de son. Je crois que c'est la pire prise de son de ma vie. J'avais même pas pris le temps de prendre un pied de micro pour le micro. J'avais posé le micro sur une chaise. J'avais mis l'ampli devant un peu à l'arrache. Tout ça dans la cabine, c'est-à-dire devant la console, avec les enceintes à fond. Donc, le son repassé dans le micro, c'était une ignominie, cette prise de son de guitare. Et puis finalement, c'est un morceau sur lequel la chanteuse Beyoncé a posé pour un morceau avec IAM. Voilà, le truc, ça a été un super gros titre. Alors que bon, la prise de son, c'était n'importe quoi. Bon, ça arrive, quoi.
À propos de prise de son, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'on peut, en tant qu'ingénieur du son, accepter de faire un son complètement dégueulasse pour donner une ambiance à un morceau de musique?
Ah bah oui.
Pour se donner, dire je veux cette ambiance-là,
Ah bah
donc
ouais, mais
je vais
complètement.
casser mon.
Ah bah
Je vais
ouais.
tout
Bah oui.
casser.
Mais heureusement, même. Sinon, Jimi Hendrix, il aurait joué de la guitare nylon, quoi. Heureusement, il faut. Si on a une idée en tête, même si le son est dégueulasse, au contraire, s'il y a quelqu'un qui a une idée, alléluia, quoi. Enfin, super. Allons-y, quoi. Essayons les choses, quoi. Il y a tellement d'exemples dans l'histoire de la musique et de l'enregistrement, sur des idées un peu farfelues qui finalement font un truc super et qui arrivent à faire vivre des titres. Moi, je suis pour, quoi. Et complètement. Alors là, super, quoi. Au contraire. Moi, j'aurais même tendance des fois à me dire, bon, ben voilà, l'exercice aujourd'hui, ça va être d'utiliser un micro, pas un très bon micro, et faire n'importe quoi avec, même le mettre dans une pièce à côté pour essayer de créer un son, plutôt que me dire, bah, tiens, je vais tout le temps sortir les micros de référence pour arriver à avoir le meilleur son possible et avoir un truc. Je fais pas de la musique classique tous les jours, donc quand je fais de la musique classique, je sais que ce qu'il faut que je fasse, et puis quand je fais un peu entre guillemets, de la musique pop ou rap, quoi, je l'inclus comme ça, la musique moderne, au contraire, allons-y, hein, c'est à l'inverse des règles de l'art, au contraire, on devrait tout faire à l'envers à ce moment-là.
C'est là où il y a le plus de remises en question.
Exactement. C'est tous les jours, on essaie de faire autre chose, quoi. Un des premiers albums que j'ai enregistrés, j'avais des guitares acoustiques à faire sur tous les titres. Et c'était pour un album de R&B. Et je me suis mis comme défi de faire à chaque titre une prise de son différente, quoi. Et c'était l'objectif, quoi. Et il y a eu 15 ou 16 titres, et sur 16 titres, l'acoustique a jamais été prise de la même manière, quoi. Et du coup, bah, ça m'oblige à chercher des choses, artistiquement, à me remettre en question, à essayer de faire en sorte que le morceau soit meilleur une fois que je l'ai enregistré.
Est-ce que ça va pas à l'encontre de chercher une ambiance spéciale et continue dans un album ou...
Ça dépend de l'album qu'on fait.
Oui.
Voilà. Ça dépend. Mais en
Parce
même
que...
temps, l'ambiance, elle peut. Les ambiances, elles dépendent pas seulement de ça, quoi. Le parti pris à la prise, il va aider, mais en même temps, par exemple, tout à l'heure, je donnais comme référence PJ Harvey. Sur PJ Harvey, toutes les voix sont traitées entre guillemets de la même manière, c'est-à-dire un peu saturées. C'est ça qui peut être le fil conducteur de l'album. Et à côté, ça peut être le chaos complet d'un titre à l'autre, un titre avec une batterie, un titre avec une boîte à rythme. Déjà, ça change complètement l'univers, quoi. Et pourtant, c'est pas parce qu'on a commencé avec une batterie qu'on doit finir avec une batterie, quoi. Ou sinon, on changerait même pas de batterie. Quand j'écoute des albums comme des albums de The Roots, il y a trois batteries pour faire le son des batteries. Et d'un morceau à l'autre, ils changent de batterie, ils veulent pas les mêmes choses, quoi. Et puis, je sais pas, quelque part en même temps. Bon, après, si on fait un album de jazz, non, il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait la même prise, il faut que ce soit traité de la même manière, parce que on n'est pas dans la même recherche, quoi. La recherche, elle est harmonique, elle est rythmique. Le son, il ne doit pas intervenir plus que ça, quoi. Justement, là, on doit se taire. À un moment donné, il faut qu'on se mette en retrait. Les patrons, c'est pas nous, c'est l'artiste en premier. Mais après, si on peut apporter des idées, des choses, créer des choses, ben, il faut y aller, quoi. Au contraire, c'est super, quoi. Mais toujours en respectant l'artiste. C'est l'artiste qui a le dernier mot, c'est pas nous.
Alors j'ai toujours une question récurrente, c'est par rapport au son actuel. Dans le desiderata des radios, de vouloir avoir un son radio, un son compressé,
Oui.
C'est ma question récurrente. Est-ce que tu l'acceptes, ce genre de choses?
Non, j'ai du mal. Bon, après, il y a des... Moi, je travaille dans le rap. C'est une musique qui a existé aussi en compressant beaucoup à cause du matériel. Je pense que, je sais pas, peut-être qu'au début, il rentrait dans les magnétos sans faire trop attention. Peut-être que ça a typé le son. Mais c'est vrai que, bon, je suis amateur de rock et de musique pop aussi. Et il y a des albums, c'est une catastrophe, quoi. Ça les rend agressifs. Carrément, je peux même pas les écouter, quoi. Moi, j'en ai assez de la course au niveau comme ça. Et à un moment donné, je trouve qu'il faut arrêter, quoi. Les respirations, ça fait partie de la musique, quoi. Les blancs, ça s'écrit sur une partition, ça existe et il faut les laisser vivre. La réverb, elle existe aussi parce qu'il y a un moment donné, la musique, elle se tait et tout ça, c'est souvent gâché par des compressions. J'ai été déçu par des albums qui étaient peut-être trop compressés, trop agressifs. Et je me dis que j'aurais bien voulu écouter les albums avant qu'ils passent au mastering, quoi.
C'était une réflexion que nous avait fait Yves Jagé en disant qu'il avait été très surpris en retrouvant ces albums qu'il avait enregistrés à la radio en disant que je ne les reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus ma marque à moi.
C'est dramatique, hein. Alors ça, c'est dramatique. Parce que là, c'est vraiment... moi, ça m'arrive souvent quand je mixe. La peur du mastering, quoi. La peur du mec qui va passer derrière et qui va fracasser tout le travail qu'on a fait, toutes les heures de prise, les heures de mix, et finalement, en une journée, tout est gâché. Moi, j'en ai peur. Hein. J'ai du mal à le vivre, ce truc-là, quoi. C'est un peu compliqué. Alors, parfois, on a des bonnes surprises parce que, au final, ça sort bien, quoi. C'est super, quoi. Des fois, même, c'est mieux. Et puis très souvent, c'est raté, quoi.
Mais on ne peut pas avoir un desiderata de la part de l'ingénieur du son en disant « je veux telle personne pour... »
Alors, il y a des ingénieurs qui arrivent à choisir. Mais le problème, c'est que c'est l'artiste qui choisit. Plus ça va et plus je m'aperçois aussi que même pour choisir les studios, c'est même plus l'ingénieur qui le fait. On ne choisit plus le studio en fonction de l'ingénieur, on le choisit en fonction du goût du café, la couleur de la lumière et du tarif. Et
ce sont plus des artistes, ça.
Mais les artistes, ils gèrent pas tout.
Ouais. C'est des vendeurs de musique.
Ouais, mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Se faire respecter en tant que technicien, c'est super compliqué, quoi. Mais bon, après, bon, je vais pas pleurer sur mon sort. Moi, je vais pas me plaindre. Tout va très bien. Mais c'est vrai que parfois, c'est les boules, quoi. On n'est pas toujours là où on voudrait être, quoi. Mais bon, des fois, on est mieux que là où on aurait pu espérer être aussi. Des fois, les bonnes surprises, quoi.
Quels sont tes projets et quels sont tes souhaits dans les mois à venir?
Là, je vais travailler sur un concept un peu là, super sympa. Là. C'est un moyen métrage avec de la musique. Tout au long du film, en gros, c'est le fil conducteur, c'est la musique. La musique doit être en continu, ne doit pas s'arrêter. Et les scènes vont se passer en fonction des paroles des chansons. Donc j'ai ça qui va commencer début avril. Ensuite, j'ai une mixtape. Alors c'est un projet qu'on trouve que dans le rap. C'est en gros un album vite fait... le plus vite possible, un peu dans l'urgence, comme ça, là, on pose et on mixe pas, on fait que des mises à plat, on se met un peu en danger, donc là, ça, c'est sympa, quoi. Et après, j'ai normalement l'album d'un chanteur de soul qui s'appelle, quoi, c'est son deuxième album, c'est un chanteur qui s'appelle Saïd. Normalement, il y a ça, puis j'espère, parce que ça fait un an qu'on en parle, faire l'album du rappeur d'IAM Shuriken, quoi. On en a parlé, mais pour l'instant, je sais pas où on en est. Et puis après, le prochain IAM, quoi, qui pourrait commencer peut-être en fin d'année, je sais pas, quoi. Mais en gros, il y a plein de projets qui risquent de tomber comme ça. Entre autres, parce que en même temps, je travaille sur aussi une mixtape d'un groupe qui s'appelle Shenpai qu'on doit terminer. Il y a leur album aussi qui devrait démarrer aussi dans l'année. J'ai plein de projets comme ça qui sont en cours. Il y a un album de jazz que je dois faire du côté de Nice. J'espère. Et puis je travaille aussi avec un groupe de rock On est en train de travailler sur un album. Voilà, donc on est en plein dedans. Voilà. Mes projets, ce serait de terminer tous ces albums-là, quoi.
Est-ce que ça t'intéresse ? Je t'ai pas posé la question. Effectivement, on parle toujours de studio. Est-ce que ça t'intéresse de faire des enregistrements de concerts en live ?
Alors, ça a failli se faire là, mais bon, finalement, j'ai failli enregistrer le live d'Ayam en Égypte. Puis bon, finalement, j'ai pas pu partir pour des raisons personnelles, quoi. Mais je l'ai eu fait. Et c'est vrai que je l'ai plus trop fait parce que j'ai pas eu le temps, quoi. En gros, voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas fait depuis des années parce que j'ai pas le temps de tout faire, quoi. Et je regrette. Et c'est vrai, en même temps, c'est super compliqué parce qu'en France, souvent, quand on est... on nous colle des étiquettes. Alors, comme je travaille beaucoup dans le rap, et on me colle une étiquette d'ingénieur de rap qui sait faire que du rap, quoi. Alors qu'à la base... je faisais des prises de son de groupe de salsa et de bossa, donc j'étais pas dans le rap du tout. C'était assez marrant, quoi. Mais bon, ça me pose pas de problème. Et puis, mais ce que je fais pour compenser le fait de pas enregistrer des concerts live, c'est que j'enregistre des groupes en live en studio, quoi. Je les fais jouer tous en même temps, quoi. Je les mets en danger, quoi. Et je les oblige à bien jouer, quoi. Parce que malgré tout, il y a un moment donné où la musique elle est faite par des musiciens, quoi. C'est pas du copier-coller sur un ordinateur ou c'est pas que ça, quoi. Ça doit nous aider quand on est au pied du mur. Normalement, c'est des gens qui sont derrière les micros, qui jouent de A à Z la musique qu'ils doivent faire, quoi. C'est comme ça que ça se fait, la musique, quoi. C'est pas du montage audio, quoi.
Et juste deux questions encore. À propos du matériel, qu'est-ce qui te permet de choisir un type de matériel ? Qu'est-ce qui t'enthousiasme ? Qu'est-ce que tu cherches plus exactement ?
Pendant des années, j'ai cherché quelque chose de droit, quelque chose de linéaire. Ça dépend. Quoi. En gros, j'ai évolué en fonction de la musique que je fais aussi. En gros, au début, quand je faisais de la musique jazz et classique, je faisais quelque chose de linéaire. Donc, du coup, j'avais du matériel. J'avais du matériel Studer, quoi, pour avoir des références. Je veux pas parler de technique parce que souvent on nous dit ouais, les ingénieurs du son ils ont que des références en bouche, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu le matériel, bon ben voilà, Studer, des micros BEK, Shops, voilà, c'était à peu près les références que j'avais, Neumann forcément, et donc du coup au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler dans la musique qui était de plus en plus pop, et maintenant j'essaye de typer le son au maximum, quoi. Donc maintenant j'hésite même pas, je suis ouvert à tout, quoi. C'est vraiment... Après, il y a des choses que je préfère, quoi. Et après, bon, c'est marrant parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de matériel. Mais donc, je suis tombé sur des machines qui me plaisaient et je me suis aperçu que maintenant, pour travailler, j'aimais avoir des machines que j'aime, quoi. Et du coup, je me les achète, quoi. Fais plaisir.
Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours à la recherche du dernier outil sorti ou tu acceptes de regarder en arrière en disant « Tiens, ça a été utilisé il y a 25 ans, mais c'est intéressant pour ce que je veux faire. »
Ah non, alors moi, j'ai de tout. Moi, je préfère acheter quelque chose d'abord qui marche, parce que parfois, quand on achète du vieux, ça ne marche plus. Et souvent, on va dans des studios où ils sont pleins de références, que du vieux matos, c'est super et tout. Puis au final, quand on veut brancher les trucs, il n'y a rien qui marche, quoi. Voilà, ça c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que à chaque fois que je dis que j'utilise un matériel, il fonctionne et il marche très bien, quoi. Si je peux pas compter sur le matériel, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, je regarde les vieilles machines, mais pour moi il faut qu'elles soient en état de marche, mais parfaite, quoi. C'est qu'il n'y ait pas un bruit, qu'il n'y ait pas un problème, parce que tout de suite je la sors du rack, je veux même plus la voir, quoi. Et puis elle part tout de suite à la réparation. C'est pas possible de garder une machine qui marche pas, quoi. Donc du coup, j'ai des vieilles machines. Des compresseurs qui datent des années 50 et j'ai du matériel neuf. Et justement, pour les micros, le problème se pose, c'est que bon, une des plus grosses références, c'est le U47, et c'est un micro qui est très vieux et qui est plus, quoi, qui se trouve plus en bon état comme on pouvait le trouver même il y a 10 ans. C'est-à-dire que j'ai eu la chance il y a 10 ans de travailler avec des U47 qui étaient en état de marche exceptionnel. Mais maintenant, arriver à trouver un micro comme ça, un vieux micro qui marche bien, il n'y en a plus, quoi. il n'y en a plus, et puis ça a vieilli, et puis les plastiques qui étaient utilisés, c'était pas les mêmes que ceux qu'on utilise maintenant, et puis en plus, quand ils ont 50 ans d'âge, bah, ça ne fonctionne plus, quoi. Donc en gros, me retrouver avec une épave comme micro, juste pour avoir une référence, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je préfère rechercher quelque chose de neuf et qui peut aussi correspondre plus à la musique que je fais aussi, quoi. Donc du coup, je connais les références parce que j'ai eu la chance de les avoir entendues. Maintenant, c'est pas parce que je les ai entendues et que je sais que c'est des références que je vais forcément prendre ces choses-là, quoi. Je vais essayer de trouver autre chose, quoi. Quelque chose qui me correspond plus. Quelque chose qui correspond à mes goûts aussi. Donc c'est vrai qu'après, ça influence la prise de son. Entre guillemets, ça peut faire partie de ma patte personnelle. Ben ouais, le matériel, le choix que je fais dans le matériel, quoi. Le choix d'association aussi de choses, quoi. Un micro que je trouve qui colle mieux avec un préampli, qui colle mieux avec un compresseur, ce choix-là, ben c'est un peu compliqué, mais bon, après c'est de l'expérience, l'utilisation du matériel aussi. Il y a des compresseurs, on a l'impression que bon, mais c'est bon, il est réglé, il marche, mais on s'aperçoit au bout d'un an à travailler que avec ce compresseur-là, même dans toutes les conditions que celui-là, eh ben, au bout d'un an, on travaille plus avec de la même manière, quoi. On le connaît mieux, quoi. Moi, je suis un fidèle en tout point, donc quand j'ai une machine, je suis fidèle, y a pas de souci. Après, je la remets toujours en question, je remets tout en question, mais je suis fidèle. C'est-à-dire que je considère que je dois toujours pouvoir me débrouiller avec ça, quoi. Alors, c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon.
Dernière question. Quel est le matériel qui te fait rêver actuellement et que tu n'as pas ?
Ah, ça c'est compliqué ça. Je sais pas, non, rien.
Bon, il a tout, c'est un enfant gâté.
Cette année je me suis fait plaisir. Mais quelque chose qui me ferait plaisir, non mais aujourd'hui j'ai exagéré, je viens de recevoir du matériel aujourd'hui, donc... Ce qui me fait rêver, c'est d'ouvrir les cartons que j'ai reçus aujourd'hui et puis les utiliser demain en mix, quoi. C'est ça qui me fait rêver, quoi. J'ai mes nouveaux joujoux, quoi. Ouais, en ce moment, j'ai bien envie de m'acheter un D12. Un micro D12. Mais bon, c'est pas ridicule, hein. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, en ce moment, j'ai envie de ça. Mais, voilà.
Bien. Merci sur ces bonnes paroles. Nous allons terminer. Merci, Philippe, d'être venu.
Ouais, vous avez remarqué que j'ai un flow continu, quoi. J'arrête pas de parler, quoi.
Non, mais c'est bien, c'est très bien. Bien, c'était Autre Radio, Autre Culture. Bien, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Autre Radio, Autre Culture.